Bonsoir Michel Hazanavicius.
Bonsoir.
On est avec vous pour parler de vos carnets d'Ukraine qui sont édités aux éditions Alary. Nous allons parler aussi quand même un peu de ce livre qui est aussi un film que vous avez réalisé qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, pour lesquels vous avez fait les dessins. On y reviendra puisqu'il y a dans vos carnets d'Ukraine des dessins. La première question que j'ai envie de vous poser, Michel Hazanavicius, c'est quoi la guerre pour vous ?
La guerre pour moi ?
Alors, je prends un peu en traître les gens qui ne savent pas, mais dans votre livre, c'est une question que vous posez aux gens que vous rencontrez.
Oui. Alors, vous m'auriez dit ça il y a quelques mois, j'aurais fait une blague, je pense. J'aurais parlé de mes enfants, mais là, en fait, dans ce livre, donc pour ceux qui ne savent pas, le livre est la retranscription de carnets que j'ai fait en m'étant rendu sur une zone de guerre en Ukraine, à Kramatorsk, dans la région de Kramatorsk. Et donc, la guerre, c'est quoi pour moi ? C'est un monde parallèle, en fait. C'est un monde parallèle qui reste un mystère. C'est-à-dire, je crois que c'est un endroit qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'y a pas été. Et c'est pas une histoire d'y être physiquement, c'est d'y prendre part. Moi, j'ai pas pris part, j'ai fait quelques jours en observateur, mais je crois que c'est vraiment un monde parallèle. C'est un monde où je crois tout est en négatif. Qui est inaccessible et impensable pour qui n'y a pas été, je crois.
Vous dites dans ce livre que finalement c'est un endroit où l'ordinaire devient extraordinaire.
Oui, c'est-à-dire en fait, alors dans le cas de cette guerre-là, il faut que je reprenne un petit peu
je vous en prie.
Avant, mais pour avoir parlé avec beaucoup d'Ukrainiens, cette guerre-là, c'est énormément de gens qui sont des gens tout à fait ordinaires, c'est-à-dire des gens qui sont absolument comme vous et moi, les gens que j'ai rencontrés. Il y a des ouvriers agricoles, des ferronniers, des soudeurs, des avocats, des chanteurs, des menuisiers, des chefs d'entreprise, tout ce que vous voulez. Et du jour au lendemain, ils se sont engagés dans l'armée et ils ont été se battre. Mais en fait, ils étaient avant-guerre exactement ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être pas insouciant, mais en tous les cas totalement inconscient de la possibilité que la guerre arrive. Pratiquement aucun d'eux n'y croyait réellement, alors même que les troupes russes étaient à leur frontière. Jamais ils n'auraient pensé qu'au 21e siècle, une armée puisse rentrer comme ça dans un pays en voulant s'emparer du pays. Et donc, ils ont des réactions, les réactions et les conversations que j'ai eues avec eux, c'était des gens tout à fait ordinaires dans une situation extraordinaire. Donc, pour vous dire, un des premiers voyages que j'ai fait, j'étais à Irpin. Irpin, c'est une petite ville dans la banlieue de Kiev où ils ont arrêté l'armée russe. C'est vraiment une des villes où l'armée russe a bloqué. Ils ont été très loin, très proche de Kiev. Ils ont bloqué, notamment dans cette petite ville. Donc j'y étais après. Et puis j'ai rencontré un employé de mairie qui était assez sympa, en fait. Parce que les gens sourient quand même. Et les gens sourient, il y a des rires, il y a de la vie. C'est pas parce que c'est la guerre que tout le monde y a de la gravité, mais il y a aussi de la vie. Et il était assez sympa, on parle et tout. Puis à un moment donné, il me sort son téléphone, il me montre une photo de lui et ses copains armés jusqu'aux dents au moment où ils allaient se battre. Et puis il me montre la photo, je regarde et tout. Puis il réfléchit, il me dit c'est quand même fou dans une vie de devoir faire la guerre, d'avoir à tirer sur des gens, quoi. Et ça m'a, c'est pas que ça m'a glacé, ça m'a saisi en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est exactement une phrase, je crois. Enfin, moi étant ce que je suis aujourd'hui et avec les potes que j'ai, etc., c'est une phrase que l'un de nous aurait pu dire. Vraiment, donc c'est cette normalité-là, cette proximité-là, cette ordinarité, ça se dit pas, non?
C'est cet ordinaire-là ?
Cet ordinaire, c'est mieux, ouais. Oui, je commence comme auteur. Oui, oui, c'est cette ordinaire-là, donc qui est pour moi qui était absolument saisissant. C'était vraiment une proximité. C'est pas tellement une histoire de physique, c'est vraiment une histoire de valeur, de manière de parler, de manière de penser, d'humour, de valeur de vie, de mode de vie, etc. Je nous ai complètement reconnus dans ces gens que j'ai rencontrés.
Et ça, vous le racontez dans le livre. Mais oui. La question, c'est quand vous revenez, puisque vous êtes allé plusieurs fois en Ukraine, ouais. Et vous le racontez aussi, tout ça est dans votre livre, comment on revient à l'ordinaire ?
Il faut un petit temps de comment dire de réadaptation, c'est-à-dire que j'avais peur d'être un peu, alors notamment ce voyage-là, parce que les voyages d'avant, j'étais à Kiev, et à Kiev, c'est une ville qui ressemble à n'importe quelle ville européenne. Il y a tous les stigmates de la guerre, il y a des checkpoints, les statues sont protégées, il y a des sirènes, etc. Mais malgré tout, il y a des restaurants, des cafés branchés, des gens dans la rue, des grands magasins, des couleurs, etc. Il y a un décalage, mais il n'est pas aussi grand qu'un décalage avec une véritable zone de guerre, qui est le front. Là, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus... c'est essentiellement des voitures militaires, essentiellement des militaires, etc. Donc j'avais un peu peur de revenir en me disant tout le monde, mon environnement parisien va me sembler totalement dérisoire et complètement à côté de la plaque. Et parce qu'évidemment c'est pas du tout les mêmes choses qui se jouent. Nous en France on a des problèmes qui sont les nôtres en fait. Et puis donc j'avais peur de presque de juger en fait le côté dérisoire de nos problèmes. Et en fait non, je sais pas ce qui s'est passé en fait. D'aller là-bas, j'ai l'impression de m'être plutôt centré, dans le sens où les gens là-bas sont extrêmement centrés, c'est-à-dire que personne ne juge, ils jugent pas les Européens, ils jugent pas les Français, ils jugent pas les gens qui sont restés. Alors bien sûr, il y en a qui sont moi j'y étais il y a un an, peut-être que ça a changé un peu depuis, mais tout le monde est à sa place là-bas. Et en fait, ici, les gens, nous aussi, on est à notre place. On peut pas être plus investi que ce que l'on est. C'est-à-dire, on est dans un pays en paix, on a des problèmes de gens en paix, et il faut l'accepter. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai pas ressenti un décalage aussi grand que ce que je craignais. J'ai ressenti que c'était à moi de me réadapter à la vie de famille. Une vie de famille, les problèmes sont très, très concrets, très basiques, pas très importants, mais c'est le quotidien, quoi.
Et vous dites, là, en me parlant, et vous le dites aussi dans votre livre, que voilà, dans les zones dans lesquelles vous allez, il y a un an notamment, et que vous relatez, il n'y a pas de couleur. Mmh. Et vous faites des dessins sans couleur.
Oui.
Vous voyez, quel lien pour vous a l'utilisation du noir et blanc dans vos carnets ?
Alors, il y a un truc qui n'est pas très maîtrisé, parce que je ne dessine que au crayon à papier. Donc, de toute façon, je n'aurais pas mis de couleur, quoi qu'il arrive. Mais si j'avais été aquarelliste, peut-être que j'aurais fait différemment. Mais c'est vraiment la sensation. Alors, encore une fois, j'ai été en novembre, donc c'est quand même le ciel est un peu lourd, etc. Mais quand bien même, les couleurs les plus éclatantes sont celles du drapeau ukrainien. Il y a un jaune et un bleu qui sont les couleurs de l'été ukrainien, c'est-à-dire le jaune, c'est la couleur des champs de colza, et le bleu, c'est le ciel. Mais en novembre, c'est pas ce que j'ai vu, et dans ces zones de guerre, effectivement, tout est à peu près gris, kaki, beige. C'est ça les couleurs. Ouais.
Et en même temps, les dessins, les portraits que vous avez faits dans ce cahier apportent quelque chose de très calme. Et donc, tout à l'heure, je vous demandais, avant qu'on rentre sur scène, ce que ça vous faisait de dessiner, parce que ça apporte aussi au lecteur quelque chose de presque tranquille, j'ai envie de dire. En tout cas, dans le temps d'échange que vous avez avec l'autre. Alors, dans le livre, il y a des moments où vous êtes interrompu et ça va un peu plus vite, mais il y a quand même un détail qui m'a frappé dans trois dessins portraits sur quatre. Les gens que vous dessinez ont un œil différent de l'autre, un peu vitreux. En fait, j'ai passé du temps à regarder.
Ah oui.
Et on dirait qu'en fait, dans ces portraits, donc il y a trois personnages sur quatre qui ont presque une larme dans l'œil. Comment vous dessinez les yeux ?
Et comme je peux. Bon, on n'a pas les mêmes yeux hein, dans la vie.
Ouais, on n'a pas les mêmes yeux.
Enfin, on n'a pas les mêmes yeux. L'œil droit est toujours différent du gauche, mais ce serait affreux. Quelqu'un qui serait complètement symétrique, ce serait tout à fait terrifiant.
Ce serait cubiste, en tout cas.
Ouais, ou robotique, je ne sais pas, mais. Moi, enfin, j'ai remarqué que je les ai beaucoup fait souriants.
Oui.
Et je suis très heureux de les avoir fait souriants. Parce que malgré tout, c'est ce que j'effleurais cette idée tout à l'heure, mais malgré tout, sur le front, les gens, ils rigolent. Il y a de l'humour et il y a de la vie. Et moi, les gens étaient souriants avec moi. Ils étaient. Il n'y a pas de compassion. Quand je vous dis que tout le monde est centré, que tout le monde est à sa place, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de compassion forcée, il n'y a pas de choses forcées. Donc quand il n'y a pas de choses forcées, ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont là, évidemment que c'est dramatique, évidemment qu'ils voudraient tous rentrer. Mais la vie, c'est comme la flotte, ça passe partout en fait. Et donc voilà, donc si j'avais fait que des portraits de gens catastrophés et tout, le livre n'aurait pas ressemblé à ce que j'ai vécu là-bas. Après, ben en fait, c'est pas étonnant parce que c'est pas non plus le Club Med. Les gens, ils sont pas en train de rigoler tout le temps. Donc, que les yeux trahissent une émotion plus grave, finalement, c'est pas très étonnant. Oui. J'avais pas remarqué, ou en tout cas, c'était pas une manière consciente de ma part. Mais ce que j'ai essayé de retranscrire à travers les dessins, c'est cette vie-là. C'est-à-dire. Oui, il y a de la vie, oui, oui, ça peut sourire, etc. Et en même temps, on est dans une situation dramatique.
Mais ça vous ressemble, hein, puisque finalement, on le voit bien, même dans votre carrière de réalisateur, ça vous ressemble d'être entre la légèreté et la gravité, de finalement d'être au milieu de ces deux pôles-là. Quand même, voilà, dans votre filmographie, je trouve qu'on retrouve cette préoccupation-là. Mais surtout, ce qu'on retrouve là, et du coup qui m'a amené à regarder vos films autrement, c'est l'attention aux gestes, au corps. Alors, dans Le Lot, il y en a quand même un particulièrement hein, de vos films qui parle de ça, de ce qui ne se dit pas, de l'absence en tout cas de son et de voix.
Oui.
Enfin, pas de son, mais de voix. Et là, on le voit bien. En fait, vous dites que vous ne posez pas beaucoup de questions aux gens. Et que finalement vous prenez ce qu'ils veulent bien vous donner, mais en fait votre observation elle est d'abord physique. On a l'impression quand vous faites ces portraits que vous êtes en dialogue avec les corps, avec le mouvement des gens qui sont devant vous. C'est ça que vous écoutez, non?
Ben, il y a deux niveaux. Il y a évidemment quand vous êtes dans, c'est très physique en fait quand même. Vous êtes avec des gars qui ont des bardas comme ça. Des fois, ils ont des casques, ils sont en treillis. Ils ont des. Il y a quelque chose qui est extrêmement physique. Et quand vous êtes un petit Parisien qui n'a rien à voir, enfin dès le début, moi, vous êtes obligé d'assumer que vous n'êtes ni ukrainien ni militaire. Ça fait beaucoup. Sur une zone de guerre là-bas. Donc oui, il y a un truc comme ça sur les corps, évidemment, qui vous le voyez même dans les images des news quand le président Zelensky rencontre d'autres présidents. Vous voyez même le corps qu'il a. Enfin, oui, il y a quelque chose qui est très physique, c'est vrai. Après, j'essaye quand même de. C'est pas que je pose pas de questions ou peu de questions, c'est que j'essaye de me mettre au service dans une discussion en fait. J'essaye d'être à l'écoute et de suivre un fil de là. Par exemple, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une toute petite pièce. Je la décris comme je rejoins une brigade et ils revenaient du polygone, c'était l'endroit où ils s'entraînent et le chef, le commandant de la brigade, a pas envie de me parler. Donc, mais il était hyper sympa, mais il n'avait pas envie. Donc, ok, très bien. Mais il dit, mais j'ai trois gars, je t'envoie trois gars et tout ça. Donc, je dis, ok. Et on me fait descendre dans des escaliers. Je me retrouve dans une toute petite pièce éclairée par une petite ampoule. Et donc, effectivement, si je devais faire un film avec une séance d'interrogatoire militaire un peu musclé, je serais pile le décor que je choisirais. Donc, je me retrouve là-dedans et tout. Et je vois trois. Et il y a trois gars qui viennent les uns après les autres. Ils ont à peu près tous le même âge. Ils font tous partie de la même brigade et tout ça. Donc, j'avais un peu peur que ce soit un peu trois fois le même type de. Comment dire, de témoignage. En fait, pas du tout. Chacun. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Chacun a un trajet de vie, une personnalité, une manière d'aborder la guerre, quelque chose qui lui est propre. Et en fait, tout le monde, dans une situation comme celle-ci, tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée. Et donc moi, effectivement, j'ai essayé de suivre. Par exemple, il y en a un qui m'a raconté les premiers jours de la guerre, il y en a un autre qui m'a raconté ses terreurs nocturnes et ses paniques attaques. Il y en a un autre qui m'a raconté à quel point il se sentait tout à fait normal dans cet environnement. Il m'a dit cette phrase hallucinante. Il m'a dit, tu sais, moi, je suis vraiment... Parce que je lui dis, mais t'aimes quoi, tout ça. Il me dit, mais moi, j'ai ma copine, j'ai ma moto. Enfin, je suis un gars tout à fait normal, à part que je sais tuer, mais sinon, je suis tout à fait normal. Donc, en fait, chacun a des... Donc, oui, j'ai essayé de suivre un peu là où était la personne. En fait, moi, j'ai une approche humaine des gens. C'est-à-dire, on était à hauteur d'homme, quoi, si vous voulez. Donc, je cherchais pas et je ne reviens pas avec une analyse géopolitique. Et là, je fais de la promo en ce moment. Et quand, alors, évidemment, des fois, je réagis parce que ce qui se passe en ce moment est tellement dingue que oui, je peux réagir. Mais sinon, je suis pas arrivé en me disant je vais vous livrer une analyse géopolitique en vous disant les Ukrainiens pensent ci ou les Ukrainiens pensent ça. Pas du tout. Moi, j'ai vu des êtres humains. J'ai essayé de rencontrer à chaque fois une personne. Et en fait, ce livre est un peu une mosaïque et ça crée une espèce d'instantané. C'est pour ça qu'on l'a appelé Carnet d'Ukraine. C'est une espèce d'instantané comme ça, d'un moment de gens qui nous ressemblent, comment dire, extrêmement. C'est-à-dire, ils sont extrêmement proches de nous. C'est au-delà de ça. Ils sont nous et ces gens-là sont en guerre. Et voilà, c'est un instantané de ça. Donc oui, ça passe autant par les corps que par... vous savez, comme il y avait une interprète, moi je n'enregistrais pas, j'écrivais, j'avais papier et crayon. Avec des fois des moments où il n'y avait pas un bruit, on entendait juste le. Il me regardait comme ça. Donc c'était assez. C'était hyper intime. Mais comme il y avait cette interprète qui était avec moi, quand je parlais aux militaires, je les regardais dans les yeux. Ensuite, elle traduisait. Ensuite, quand il répondait, il me regardait dans les yeux. Et quand elle me parlait, j'écrivais. Mais donc, il y avait un contact qui était très, qui était physique. Et il n'y avait pas une caméra. Une caméra, c'est quand même un troisième œil. C'est quand même un observateur. Ça change. Et beaucoup, d'ailleurs, m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être filmés. Très étrangement, ils avaient moins confiance, ceux avec qui j'ai parlé, ils avaient moins confiance en un entretien filmé qu'un entretien que j'allais re-raconter et où j'allais les redessiner.
Est-ce qu'ils se sont vus dessiner ?
Non. Il y en a un que j'ai rencontré au début, et un type assez étonnant qui s'appelle, si jamais vous achetez le livre, je vous dis comment ça se prononce, parce que ça s'écrit H-H-O-H-H-O-L. Oui.
Ben merci. C'est gentil de nous dire comment ça se prononce.
Donc, plusieurs personnes m'ont dit, ce type-là, quel nom imprononçable. Donc, c'est Hohol. Hohol. Au début, ça s'est très mal passé avec lui. Enfin, ça s'est pas très bien passé. Mais il m'a fasciné. Et donc j'ai fait un portrait de lui un soir comme ça et tout ça, et il se trouve que je l'ai retrouvé quelques jours après et dans des conditions un peu, je peux le raconter, enfin, c'est-à-dire j'avais été voir un autre gars complètement extraordinaire aussi, un Roman qui est un comique qui fait qui fait rire des gars qui partent au front le lendemain. Bon, c'est encore une histoire assez incroyable, mais en tous les cas, je vais voir ce type, ce militaire, et dans la maison où il est, il y a ce Rojol en question avec qui ça s'était pas très bien passé. Et puis on est en train de parler avec et ça continue de pas très bien se passer. Je sens qu'il est pas, il fait 1m95, il a une tête hallucinante et tout ça. Et je sens qu'il y a un truc un peu pas. Là, je sens clairement que je ne suis ni ukrainien ni militaire. On est dans deux mondes très très différents. Et puis je suis en train de parler avec l'autre et tout d'un coup il y a des roquettes qui tombent mais très proches. Et alors vraiment ça fait un truc très bizarre. Comme il y a d'autres militaires, moi je me cale sur tout le monde et tout ça. Et en fait, il y a une deuxième roquette qui tombe. Et puis en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, alors le Rojol revient en question et c'est lui qui prend les décisions. Et en fait, il y a plusieurs roquettes qui tombent. Donc on se rend compte que c'est un bombardement en fait. Enfin, qu'il y a plusieurs roquettes. Donc voilà. Donc on descend aux abris, dans un abri qui est en fait une cave. Qui est à peu près la taille d'un compartiment de train, grosso modo, avec des couchettes comme ça. Et puis on est, je ne sais plus, une dizaine là-dedans. Puis on est là comme ça. Et je suis face à ce Rojol qui est sympa sans plus, je dirais. Et puis au bout d'un moment, on parle. Et puis je vois bien, il parle en ukrainien. L'interprète est un peu loin, donc je ne comprends pas. Mais je sens bien qu'il parle de moi et tout ça. Et il fait pas mon éloge, disons. Et puis je sais pas pour, et à un moment donné, donc je sors mon carnet et je lui donne le dessin que j'ai fait. Et je sais pas bien pourquoi je fais ça, mais tout d'un coup, il le regarde comme ça et il le montre à ses copains qui explosent de rire et qui le trouvent super. Et lui dit, mais je ressemble pas à ça, je suis pas aussi méchant. Et puis les autres lui disent, bah, tu t'es vu, mon gars, c'est juste ça. Et en fait, à partir de ce moment-là. Et il m'a demandé de le signer, et puis et en fait le truc s'est retourné, et en fait on a finalement réussi à connecter, et en fait il était content que je lui fasse un cadeau, et voilà. Mais c'est le seul qui a vu un dessin.
Je vous pose cette question justement parce que comme cette histoire vous la racontez dans le livre, ouais. Et que on comprend bien dans le livre que c'est un moyen de communication pour vous aussi à un moment donné d'apaiser un peu justement cette tension qui a l'air d'exister. De lui sur vous, et donc on voit bien, comme vous le dites que il préfère ne pas être filmé, tous ces gens que ouais. Vous rencontrez, et probablement que le fait de leur dire que vous allez les dessiner, parce que vous racontez aussi que vous les prenez en photo, vous leur demandez s'ils sont d'accord pour être ouais. En photo, puisqu'après vous allez les dessiner,
ouais.
Et donc
c'est une petite photo à l'iPhone comme ça, vite
voilà. Fait, ouais. Enfin, en tout cas, donc vous vous présentez comme quelqu'un qui a une approche artistique d'entrée de jeu.
Ouais.
Pourquoi vous dites à un moment donné, alors vous dites que vous avez des sentiments de honte et de culpabilité. Honte, je peux voir pourquoi. Pourquoi culpabilité?
À quel moment en repartant.
Voilà.
En repartant, ben oui, vous avez le sentiment de les abandonner en fait. C'est-à-dire que mais je voudrais revenir juste sur un truc de ce que vous disiez avant. C'était le fait de lui donner un dessin, c'était plusieurs choses. D'abord, moi, je leur disais beaucoup merci parce que ils se battent. Bien sûr qu'ils se battent pour l'Ukraine, ils se battent pour leur pays et tout ça. Mais ils sont quand même à l'avant-garde de l'Europe. Ils se battent pour des valeurs. C'est-à-dire, moi, je suis persuadé que la Russie, et la Russie de Poutine en l'occurrence, ne veut pas s'arrêter à l'Ukraine. C'est-à-dire, il y a un délire d'empire chez Poutine. Donc, un empire, il a des frontières en expansion. Donc moi, considérant ça, je les ai beaucoup remerciés. Mais en fait, je savais pas quoi leur donner. Bien sûr, j'ai fait ce livre et tout, mais sur le moment, je ne savais pas quoi leur donner. Donc, tout d'un coup, je lui ai donné quelque chose. Et je pense que le fait de lui donner quelque chose, sans doute que ça l'a touché. Mais il y a aussi autre chose, c'est que les gens avec qui j'ai fait ce voyage, qui ont organisé toutes ces rencontres, c'est une partie de l'armée qui s'appelle les forces culturelles. Et en fait,
donc vous êtes aussi ambassadeur.
Non, je suis ambassadeur de United 24, qui ça c'est une plateforme de récolte de fonds.
Ok.
Mais donc j'ai été plusieurs fois à Kif à cause de ça. Si vous voulez, je vous raconterai l'histoire après comment je me suis retrouvé là-dedans. Mais donc je suis ambassadeur d'une plateforme de récolte de fonds. Mais en revanche, dans les différents voyages que j'ai fait avec cette plateforme, j'ai rencontré un militaire qui s'appelle Kolia,
qui
a monté cette organisation qui s'appelle les Forces culturelles. Et en fait, lui, il organise des concerts pour les soldats du front. Et alors, des concerts, des fois, c'est des marionnettistes, il y a ce comique dont je vous parlais, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que amener de la culture sur le front, c'était absolument indispensable. Et en fait, l'armée les a intégrés. Et aujourd'hui, c'est une vraie entité officielle de l'armée, alors qu'au départ, c'était une organisation. Donc, peut-être aussi que le fait d'amener un dessin, tout d'un coup, il y a une forme de... Comment dire c'est aussi amener... un objet qui n'est pas guerrier, en fait. En fait, un dessin, c'est un morceau de paix, en fait, que je lui ai donné aussi. Et donc, je crois que c'est ça, ça a valeur. Les deux concerts auxquels j'ai assisté, c'est vraiment des parenthèses de paix. C'est très clairement ça. Et ça a une valeur. Ça a vraiment de la valeur. J'ai vu les corps des gars se changer littéralement. J'ai vu des gars qui avaient des visages tendus. Ils repartaient le lendemain pour le front et ils étaient en crise de fou rire avec ce comique dont
qui a l'air d'être très très drôle et dont vous parlez dans ce livre à nouveau, puisque vous détaillez ces soirées-là. Et sur ce marionnettiste, vous dites que finalement, dans votre échange, ressort que la marionnette est un lieu de passage d'une histoire. Mais finalement, un rôle aussi, non ? Écrire un rôle pour quelqu'un, c'est un peu aussi comme être marionnettiste quelque part, non ?
Vous voulez dire moi, dans ma pratique
Vous avez un lien quand même avec cette réflexion-là. En tout cas, elle ne vous est pas complètement étrangère.
Oui, dans l'idée peut-être de raconter des histoires, certes, et tout. Mais lui, il est très particulier parce qu'en fait, lui... Moi, j'écris un rôle. Oui, enfin, les acteurs seraient pas très contents s'ils entendaient que c'était des marionnettes.
Les acteurs, j'ai bien dit non. Un rôle.
Oui, bien sûr.
Le même endroit. C'est le moment où vous pensez à une géographie d'une scène, à une géographie d'histoire.
Mais ça, moi, je fais de la mise en scène classique ou de l'écriture de films classiques. Lui, il fait autre chose, justement. C'est qu'en fait, lui... il fait pas un spectacle de marionnettes comme on les connaît, c'est-à-dire il arrive et il y a une histoire qui est écrite et il a, je sais pas, Guignol et le policier, enfin, c'est pas, ou d'autres. C'est pas ça en fait. Lui, il a des marionnettes et en fait, il a rien vraiment d'écrit. Et en fait, c'est un hyper empathique et il fait passer à travers lui et à travers les marionnettes les traumas et les histoires. Des gens qui sont là, c'est en fait, ils créent des instants et ça ressemble beaucoup plus, je dirais, quasiment à de la thérapie qu'un spectacle. Dans le sens, il peut pas faire son truc sur une estrade avec des gens qui seraient extérieurs. Il crée des moments où il fait passer, et c'est tout à fait étonnant. C'est un type qui est tout à fait étonnant, ouais, qui s'appelle Valérie. Donc, moi, j'ai une pratique qui est beaucoup plus classique de traditionnel du spectacle. Lui, il est un peu, je l'ai appelé le chaman. Mais je lui ai demandé comment tu veux. Je lui ai dit, je vais t'appeler le chaman parce que je savais que je leur donnerais des noms et tout ça. Et comment tu veux que je t'appelle? Il m'a dit Jésus. J'ai dit, non, mais je vais t'appeler le chaman. mais c'est un type. En fait, la guerre, c'est aussi un endroit où les gens se révèlent. Et il y a des gens qui sont plus ou moins préparés à ces événements extraordinaires. Ça a été comme ça aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui étaient, par leur trajet de vie, qui étaient plus ou moins préparés à des conditions extrêmes. Lui, c'est un type qui, ça faisait, je crois, une vingtaine d'années qu'il avait son théâtre de marionnettes à Kharkiv. Mais il jouait pour des personnes en fin de vie. Ils jouaient pour des enfants qui avaient eu des traumas, des ados qui avaient eu des traumas, pour des enfants de très bas âge qui étaient malades. Donc, si vous voulez, il a toujours été en contact. C'est quelqu'un qui travaille avec la souffrance des autres. Et quand la guerre a commencé, il était lui, c'est une des premières rues, il habite dans une rue qui était une des premières à être bombardée. Et il a été tout de suite, il s'est engagé et tout de suite, il transportait les blessés, etc. Et il m'a dit, c'était trop dur pour moi. Enfin, c'était vraiment très dur parce que lui, il ressentait, je vous dis, c'est un hyper empathique. Donc, toute cette souffrance pour lui. C'était vraiment assez insoutenable. Et c'est dans les abris où, pendant un bombardement, où en fait tout le monde était évidemment dans un état de stress énorme, il était dans un sous-sol, et il a demandé au commandant, il a dit, est-ce que je peux aller chercher mes marionnettes? Donc le commandant lui a dit, enfin, il n'a pas bien compris, mais il l'a laissé faire. Il est parti pendant un bombardement chez lui. Il a ramené ses marionnettes et il a commencé à raconter et à créer ce moment très spécial dont je vous parle avec tout le monde. Et le commandant a vu l'effet que ça avait sur les gens et il lui a dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses.
Alors lui, vous dites qu'il travaille avec la souffrance des autres. Et vous, avec quoi travaillez-vous? Parce que finalement, quand on voit tout votre travail, Michel Hazanavicius, on se rend bien compte que il y a une attention à l'autre. On a la sensation que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimez les gens, en fait. Vous aimez observer les gens, voir les gens vivre. Alors, c'est quoi le lien, le moteur? Avant ça, vous faites un film d'animation sur un conte qui est totalement bouleversant, sur la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, vous faites des films hilarants dont nos enfants vont se souvenir toute leur vie et continuent de garder les répliques cultes. Avant ça, vous faites un film en noir et blanc dans lequel il n'y a que de la musique. Avant ça, vous faites des documentaires. Avec quoi vous travaillez? C'est quoi le point commun? C'est quoi la colonne vertébrale de Michel Hazanavicius?
C'est très, très, très compliqué de répondre à cette question, pardon. Jusqu'à présent, j'ai un peu toujours botté en touche. Je me disais tout ça est complètement incohérent, mais vu que c'est moi qui le fais, bon, le point commun, c'est moi. Donc,
mais allez, un petit effort. Alors, c'est quoi?
Non, mais je pense qu'on est sincèrement la dernière personne qui peut répondre à cette question. Okay. Non, je sais pas. Moi, par exemple, j'adore la comédie. Je crois que c'est sans doute ce que je préfère au monde, c'est faire des comédies, faire rire les gens. C'est rentrer dans une salle de cinéma pleine et savoir précisément que dans 3 secondes, les gens vont éclater de rire et vous faites un. Deux, et il y a un éclat de rire général. Il n'y a pas plus satisfaisant, il n'y a pas plus valorisant que ça. Enfin, moi, je trouve que le rire, c'est une des émotions les plus. Enfin, faire rire, c'est un des trucs les plus nobles. Mais en même temps, je pense que je suis comme tout le monde. C'est-à-dire, vous avez. Enfin, quelqu'un qui voudrait tout le temps être marrant, enfin, c'est pas possible. Ça devient insupportable. Vous l'invitez une fois, deux fois, puis après, au bout d'un moment, mais on va pas l'inviter parce que c'est pathétique. Au bout d'un moment, quelqu'un qui ferait toujours la gueule, c'est pareil. Il est sympa, c'est intéressant, mais c'est plombant, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression d'être très honnête avec ça, dans le sens où, mais en vrai, je n'arrive pas à théoriser. En fait, c'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment mal placé. C'est que les films que je fais, je les fais selon le désir du moment. C'est-à-dire, il y a un moment donné, mais vraiment, c'est mystérieux. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est différent. Parce que ça, c'est plus. J'ai pas un rapport. C'est un rapport d'engagement, disons, d'engagement plus réfléchi, cérébral. J'ai voulu faire ça. Mais les films, je sais que je veux faire des films, et bon, d'une certaine manière, je suis bon qu'à ça, de toute façon. Enfin, bon, je ne crois savoir faire que ça, pour être honnête. Et donc, du coup, mais je peux pas vous dire pourquoi tel film ou pourquoi tel film. C'est qu'à un moment donné, il y en a un. Mais j'essaie, je vous dis, je pense que si je calculais, je me planterais, parce que c'est impossible de calculer. Ma conviction est qu'on est comme des éponges et on absorbe le monde qui nous entoure. Et le film, c'est comme si on pressait l'éponge. C'est-à-dire, il y a un truc qui sort qui ressemble, quelle que soit la nature du film ou du livre ou de la chanson que vous faites, même si vous faites la comédie la plus innocente possible, elle correspond à votre manière de vivre l'époque, quoi qu'il arrive. Donc, je vous dis, difficile de répondre.
C'était pas mal quand même. Hein, vous êtes bien sorti, bravo. Mais quand vous dites avec ça, c'est autre chose, c'est un engagement, c'est plus proche de l'acte du citoyen. Alors.
Oui, exactement.
Et quand vous faites la plus précieuse des marchandises aussi?
Non, la plus précieuse, c'est j'ai un rapport, comme je vous dis, très amoureux au film, dans le sens où il y a un. Vous savez, quand vous faites un film, d'abord, vous allez passer les 2 ou 3 prochaines années dans l'univers de cette histoire-là. C'est-à-dire, vous êtes bloqué dans cette histoire, vous êtes bloqué avec ces personnages, vous êtes bloqué, vous êtes dans une espèce de comme une espèce de petite prison mentale où vous ne vivez que dans ce film. Et en plus, personne ne le connaît, le film. Donc, après, vous allez le montrer très bien, mais vous vivez un peu seul là-dedans pendant longtemps. Donc, il faut quand même avoir une... comment dire, il faut être amoureux, déjà. Non seulement ça, mais en plus, on va vous en parler toute votre vie. Parce qu'il ne va pas disparaître au bout de 3 ans, le film. Vous avez fait, je crois, allusion à OSS 117 à l'instant. Je l'ai fait il y a 20 ans. Et vous continuez de m'en parler. Mmh. Alors, il a plu à vos enfants. Il a plu à vos enfants, tant mieux. Mais si vos enfants détestaient le film, ou si ça avait été une catastrophe, j'aurais de toute façon vécu avec. Ce que je veux dire, c'est que quand vous vous engagez sur un film, c'est une énorme proximité pendant 2-3 ans. La plus précieuse des marchandises, c'est 6 ans. Et après, c'est toute votre vie. C'est comme un bagage que vous avez toute votre vie. Donc, je ne sais plus bien pourquoi je vous disais ça, mais...
Parce que je vous demandais si la plus précieuse, il n'y avait pas quelque chose de l'engagement aussi dans le choix de faire cette adaptation du conte de grand-mère.
Non, il n'y a pas... Non, c'est pas du tout une démarche de citoyen. C'est une démarche de citoyen pure et dure. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne veux pas toucher d'argent, comment dire, sur ce livre-là. C'est-à-dire, les recettes seront reversées à cette plateforme de dons. Donc, mon métier, c'est différent. J'ai une approche. Comme j'ai été plusieurs fois là-bas, vous savez, ils m'ont demandé plusieurs fois de faire des films. Ils m'ont dit, mais tu veux pas faire un film, tu veux pas faire un film et tout ça. J'arrive pas à mélanger les deux. C'est pas pareil. C'est pas la même. C'est pas le même endroit qui me fait bouger pour ça et qui me fait bouger sur les films.
Alors du coup, je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure, parce que vous dites à un moment donné que vous vous sentez coupable. Mais en même temps, vous faites un truc qui est quand même assez citoyen. Vous ne faites pas rien.
Non, mais je ne me sens pas coupable de faire ça. Je me sens coupable au moment où je pars.
Non, de les laisser. Voilà. Oui. Non, mais vous dites, vous vous sentez coupable de les laisser. Mais en revenant, vous faites quand même un truc...
Oui, bien sûr. Bon, en fait, je crois que je suis un peu plus nuancé. C'est pas que je me sens coupable, mais j'ai... quand même une petite sensation de moi j'ai le billet de retour, quoi, pas eux, c'est tous les jours, quoi. Donc plus que coupable, je crois que c'est peut-être plutôt un peu de honte ou d'être mal à l'aise et tout ça, mais c'est je pense que c'est bien normal d'être mal à l'aise.
Pourquoi vous leur demandez ce qui leur fait peur ou ce qui leur a fait peur et ce qui les fait rire?
Parce que je vois bien que ça se marre quand même. Et je vois bien que... et ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la vie. Et je vois bien qu'ils sont un peu tous mal à l'aise sur l'humour. C'est pas qu'ils sont mal à l'aise, mais il y a un humour très particulier sur le front. Et ils disent tous... non, mais franchement, si les civils nous entendaient, ils nous prendraient pour des malades mentaux. Donc, et je pense que ça... traduit quelque chose, pour ne pas dire ça trahit quelque chose, c'est-à-dire et en fait je l'ai relié après à d'autres choses. Par exemple, ils ont des insignes. Alors vous avez d'un côté l'insigne de votre brigade, mais de l'autre celui que vous pouvez vous faire vous-même, etc. Et puis ils ont des petits signes, des trucs, des gris-gris et tout ça, machin. Et en fait, il y a des têtes de mort quasiment partout quand vous êtes dans cette zone-là. le petit sambon qui est accroché à la voiture, c'est une tête de mort. Les trucs, c'est des têtes de mort. Il y en a partout. Il y a, vous voyez ce signe là des surfeurs là. Il y en a un qui avait ça, mais avec une main en squelette, etc. Et en fait, je crois que tout ça et l'humour dont qu'il n'assume pas complètement, c'est une mise à distance, c'est-à-dire c'est une manière d'apprivoiser quand même. Ils vivent avec la mort un peu tout le temps, donc je pense que tout ça, c'est une manière d'apprivoiser la mort en la mettant un peu à distance, mais comme pour la contrôler un petit peu. Donc oui, je leur demande beaucoup où est-ce qu'il est ferré et tout ça. Et puis ça me faisait parce qu'ils étaient tous un peu mal à l'aise et tout, mais ils m'ont quand même raconté.
Oui, oui. Ouais. Et vous le racontez aussi. Et d'ailleurs, vous dites aussi qu'ils ont tous un surnom, un pseudo. Ouais. Il y a aussi cette distance-là, en fait, de tout d'un coup être. On a la sensation qu'ils sont en train de vous raconter qu'ils sont eux-mêmes, mais eux-mêmes à la guerre, qui n'est pas tout à fait le même de d'habitude.
Oui, bah par exemple, il y a cette jeune fille qui a 24 ans, qui est complètement hallucinante. C'est une jeune fille, elle est virtuose de violon, elle est en passe de passer son brevet de chef d'orchestre, elle est championne d'Europe de karaté, elle fait du kickboxing... Et elle est engagée et elle a été blessée 5 fois. Elle a perdu un œil. Elle a qu'une envie, c'est d'y retourner.
Celle-là, on sait pas où vous l'avez trouvée, mais quand on tombe dessus dans votre livre, on est impressionné quand même.
Ah ben moi, j'étais complètement impressionné. C'est-à-dire, elle a 24 ans. Alors, elle dit qu'elle a peut-être 24 ans, mais effectivement, elle a raison. Après, j'ai compris. Elle dit qu'elle a peut-être 24 ans parce que le jour de ses 24 ans, elle était dans le coma, donc elle n'a pas vécu son anniversaire. Donc, n'ayant pas vécu, elle dit bon, j'ai peut-être 24 ans. Mais elle a une puissance, il y a une puissance qui se dégage de cette femme de 24 ans qui est complètement hallucinante. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous dis il y a des gens qui sont plus ou moins préparés. Je pense que son entraînement physique qu'elle a depuis qu'elle est gamine, sa discipline de musicienne qu'elle a depuis qu'elle est gamine, fait qu'elle s'est engagée le premier jour. C'est les premières bombes sont tombées sur Kiev, il devait être 5h30 du matin. Donc elle se lève, c'est à peu près l'heure à laquelle elle se lève pour pratiquer le violon. Et donc elle se lève, elle voit ça et tout. Elle veut aller s'engager, mais elle vit avec sa mère et sa grand-mère, qui était debout elle aussi. Et elle savait bien qu'elle n'allait pas la laisser sortir et tout, donc elle a dit n'importe quoi. Elle a dit n'importe quoi, et elle est partie. La mère a rien compris et elle a été s'engager direct. Et l'après-midi même, elle était dans la rue avec une arme en train de se battre.
Et vous dites à l'instant, vous avez parlé aussi des têtes de mort dans les voitures. Et à propos de la voiture, vous dites à un moment donné cette phrase que je trouve très forte. Vous dites que vous vous sentez comme un gamin à l'arrière de la voiture avec les parents devant en qui on est bien obligé de faire confiance. Et donc de s'abandonner, parce que de toute façon, il y a des codes que vous ne comprenez pas, vous suivez le mouvement. Et finalement, cette phrase, elle m'amène aussi à vous demander comment vous avez fait, vous, en tant que témoin, pour construire vos repères, pour tenir debout. Puisque dans le livre, vous racontez sur chacun de vos personnages comment chacun d'entre eux fait pour faire face, finalement, pour tenir le coup dans cette ambiance-là. Il y a ceux qui se marrent tout le temps, il y a ceux qui ne veulent pas penser à rien, il y a ceux qui sont très combat, etc., etc. Et vous, en tant que témoin ?
Mais moi, c'était beaucoup plus simple qu'eux. Moi, je n'étais pas dans cette situation-là. Moi, d'abord, j'étais pris en charge par des gens en qui j'ai eu confiance, c'est-à-dire à partir du moment où Kolia, dont on parlait tout à l'heure, c'est lui qui m'a proposé, il m'a dit « faut que tu viennes voir les gars sur le front ». Donc je dis « ok ». Et puis après, donc, je vais vous refaire tout l'historique. Au tout début de la guerre, j'ai organisé une vente aux enchères. Oui. Et j'ai appelé plein de gens de cinéma du monde entier, des Américains, des trucs, des machins. Et on a cette vente aux enchères à ramener 250 000 euros. Donc je me suis retrouvé, je les ai mis sur cette plateforme.
Et vous le racontez en avant.
Voilà, et ils me proposent d'être ambassadeur. Donc je le prends comme un honneur. Je dis ok, bien sûr. Et donc je suis en charge d'une mission. Cette mission, elle est de retaper un immeuble qui avait été bombardé justement à Irpin. Cet immeuble est terminé maintenant. Les gens sont rentrés. C'est 450 personnes qui sont rentrées chez elles dans cet immeuble-là qui était détruit. Donc j'arrive en fin de cette mission et lui il me dit viens voir les gars sur le front, etc. Et bon, il y a un autre élément d'un acteur que je vais voir dans un hôpital, etc. Mais peu importe.
Disons. En tout cas, qui est dans le livre.
Voilà,
aussi.
Qui est dans le livre. Et donc, je, ayant fini ma mission, je me dis, j'entrevois la possibilité de faire ce livre-là. Donc, j'y vais. Et en tous les cas, je suis pris en charge par des gens, comme vous disiez tout à l'heure. Je suis à l'arrière d'une voiture. Et ils parlent ukrainien. Ils savent où ils vont. C'est eux qui prennent les décisions. Enfin, oui, je suis vraiment un gamin. Enfin, je suis au bord du chocobéen, quoi, si vous voulez. Je comprends rien de ce qui se passe. Et donc, il faut bien que je leur fasse confiance. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas de... Je me pose pas... J'ai pas à gérer ce stress. J'ai pas à gérer ce truc-là. D'autant que je sais que 5 jours après... Je retourne à Kiev, donc
même quand il y a tout d'un coup des bombes qui tombent.
Exactement pareil, c'est-à-dire que je me cale sur les gens qui sont autour de moi. Alors, pour être tout à fait honnête, s'ils étaient partis en courant en hurlant, oui, j'aurais fait pareil que je. Et donc, mais là, tout le monde est calme. Ils attendent que donc Rorol revienne parce qu'il était à l'étage. Rorol redescend. Il attend 1-2 roquettes. Au bout de, je crois 2 ou 3 roquettes, il dit, bon, on y va, on prend nos chaussures, on y va. Donc, tout le monde remet ses chaussures et on descend. Mais ça se fait dans le calme. Je vais pas, moi, pousser tout le monde et courir pour être le premier. Donc, je fais comme tout le monde. Vous n'avez pas vraiment... Il n'y a pas, si vous voulez, de peur paralysante ou de choses... Non, c'est pas comme ça. Vous vous calez sur les autres. Eux, c'est très différent. Eux, ils sont là depuis 2 ans. Ils savent pas pendant combien de temps ça va durer. Et puis, ils vont au combat, quoi. Parce que moi, j'ai pas du tout à faire ça. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation. Moi, je suis là, en fait, j'y vais pour être vraiment un passeur d'histoire. C'est-à-dire, c'est vrai que j'apparais dans le livre parce que je pense que c'est une manière pour le lecteur de comment dire. C'est un procédé qu'on a fait plein de fois au cinéma. C'est-à-dire, je suis le stagiaire en fait qui découvre. Donc, ça permet une identification pour le lecteur. Mais les vedettes, c'est eux, c'est pas moi. C'est-à-dire, je suis là pour passer leur histoire. Donc, oui, eux, en revanche, dans cette situation dingue d'être un combattant et n'étant pas, il y a des militaires de carrière dans le lot, mais il y en a plein qui n'étaient pas du tout préparé et pas du tout fait pour ça. Ils ont tous une manière très différente de vivre. Par exemple, d'un côté, il y a ce type dont je vous parlais, qui je crois, qui a 23 ou 24 ans, qui doit s'appeler Vlad, dans mon souvenir, je crois que c'est lui, qui me dit, mais moi, je suis tout à fait normal, bon, à part que je sais tuer. Donc ça, c'est un type qui s'adapte parfaitement à la situation. Il me montre une vidéo dans laquelle il a été shooté, il a pris une balle. On voit qu'il tourne de l'œil, il tombe, il se relève, il a failli être écrasé par un char et tout ça, mais il vous montre ça avec un grand sourire, parfaitement adapté. Et d'un autre côté, j'ai un type ouvrier agricole qui a au moins 20 ans de plus, qui lui est en panique totale, il pleure tout le temps et il me dit je n'en peux plus, il me dit je n'en peux plus, je suis accroché. Je lui dis de quoi tu as envie? Il dit j'ai envie de faire un hug à quelqu'un. Et je n'en peux plus. Je suis accroché à mon... Le seul hug, c'est mon flingue toute la journée. Et c'est invivable. C'est-à-dire, c'est soit je tue, soit je meurs. Il me dit, c'est invivable. Et il pleure. Et en fait, les deux sont... Lui, il ne s'est pas du tout adapté. L'autre s'est totalement adapté. Mais ils sont tous les deux aussi humains l'un que l'autre. Il y en a un qui a gardé cette humanité de refuser absolument de tuer quelqu'un. Il n'arrive pas à vivre avec. Mais il y en a un autre, il a cette humanité, il a une mission, il le fait, et il se protège. Donc, et entre ces deux extrêmes, il y a 1000 manières de vivre cette situation. Mais moi, je peux vraiment...
C'est quand même pas banal. Enfin, vous me dites que vous n'êtes pas du tout dans...
Non, je ne suis pas du tout là-dedans.
J'entends bien, ouais. Mais... c'est pas banal d'aller se déplacer, rencontrer ces types qui se battent tous les jours. C'est quand même une situation
oui.
Particulière.
Complètement particulière. Ben, moi, je me suis... mais alors, vous avez raison. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est quand on fait quelque chose, quand on est en mouvement et en action, on se pose pas de questions paralysantes.
Ouais, je comprends.
Le truc qui est le plus flippant dans toutes les, c'est quand vous ne faites rien en fait, et quand vous subissez une situation et que vous ne pouvez rien faire. À partir du moment où vous vous mettez en route, quel que soit le... Moi, en fait, je vous dis, j'ai commencé... Tout ça a commencé... C'est une amie à moi, géorgienne, qui m'a appelé parce qu'il y avait un groupe de, un peu philanthropique qui organisait une vente aux enchères. Et donc, j'ai donné tout de suite des trucs de The Artist qui sont partis très chers. Mais en fait, je me suis dit, ben, je vais en organiser une. Et en fait, tout d'un coup, votre champ d'action... s'élargit, mais en fait il s'élargit par la force des choses. Mais donc du coup, c'est parce que votre champ d'action s'élargit, que vous êtes amené à pouvoir faire des choses, ben, en fait vous êtes en mouvement. Donc je vous dis, vous n'êtes pas... Oui, c'est pas banal et tout ça, mais en vrai, je suis content de le faire.
Ben, je comprends.
Oui, oui. Non, je suis content de mais je suis même content de vivre une expérience comme ça. En vrai, c'est vrai. Je préférais que ça n'arrive pas, évidemment. Mais comme ça arrive, je suis content de faire quelque chose. Voilà.
Et comment vous avez fait le casting de ce livre-là? Puisqu'on sait qu'il y en a d'autres, des cahiers. Vous en avez beaucoup d'autres. Donc là, vous avez bien dû faire un choix d'une...
Non, tous les gens que j'ai rencontrés sont dans le livre. Il n'y en a pas un que...
Et alors, les autres cahiers ont quoi?
Bah, les autres, non, mais là, il y a plein de cahiers. D'abord, moi, j'écris gros. Il y a plein de dessins. Il y a plein
d'accord.
De.
Ouais. Ce que vous dites au début du livre, que vous avez fait 6 carnets. Donc, ça, c'est 6 carnets, ça ?
Ouais, c'est le résultat de 6 carnets. Mais tous. Et ça m'a étonné, d'ailleurs, parce que normalement, quand j'écris, je pars du principe qu'il faut jeter. C'est-à-dire, il faut garder que le meilleur. Donc, pour écrire un scénario, je jette plein de trucs. Il y a plein de choses qui sont écrites et qui finalement ne seront pas dans le scénario à la fin. Et donc, je pensais que ce serait sans doute pareil. Et je me disais, j'espère. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient tous, comme je vous disais tout à l'heure, tous ont une histoire qui mérite d'être racontée. Et quand j'ai posé la question à mon éditeur, Guillaume Allary, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit non, il n'y en a pas. Ils ont tous valeur pour être là. Donc,
est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas mis dans ce carnet? Est-ce qu'il y a des choses qui vous a fallu quand même une réflexion pour enlever une phrase, un détail?
Il y a une chose que j'ai pas mis, que je n'ai pas mis d'ailleurs, qui est le rôle dont je vous parle. La première fois qu'on se voit, donc c'est le premier soldat que je rencontre sur le front, c'est-à-dire avant j'en ai vu quelques-uns à Kiev que j'ai, on s'est vu, on s'est rencontré, tout ça, j'en avais vu rencontrer avant, mais là dans ce cadre-là, c'est le premier que je rencontre sur le front. Et pour vous raconter, j'arrive d'abord, il y a le train, et donc il y a 6 heures de train dans un train qui part de Kiev et qui va à Kramatorsk. Dans ce train, donc qui va vers le front, dans ce train, il y a quasiment que des militaires. Parfois, leurs femmes les accompagnent, mais sinon, ce ne sont que des militaires. Et ils savent très bien où ils vont. Donc, il y a une tension dans ce train. Alors là, pour le coup, j'ai eu un peu peur. Là, je me suis dit, merde, parce que là, en fait, moi, je ne sais pas où on va, mais ça a l'air... voilà. Donc, je sors de ce train. Le Tolia, qui est le type qui me conduit... vient nous chercher, il nous emmène directement dans un endroit, on fait, je sais pas, peut-être une heure de route, un truc comme ça. On se garde dans un sous-bois et on est au milieu de rien, au milieu d'une campagne qui ressemble à rien, et puis on commence à marcher, on marche dans un champ, et puis à un moment donné, dans le champ, il y a des couvercles de caisses de munitions qui font une espèce de petit chemin qui va vers une colline, et au milieu de la colline, il y a une porte, et on rentre dans la colline. Et là, c'est des couloirs avec des étais, comme ça, des couloirs en terre battue et avec des étais. Et en fait, dans la colline, il y a des containers qui font des bureaux. Donc, et au loin, j'entends quand même des grondements qui sont des bruits de la guerre. Donc, on est dans ce truc-là. Et là, je tombe sur le Rorol en question, donc qui fait 1m95, qui est super musclé et tout, qui a une coupe de cheveux complètement dingue et tout. Et le mec, comme je vous dis, il est comme ça et tout. Enfin... Je sens que ça matche pas je lui pose des questions. Moi, je suis pas très bon, je suis pas très à l'aise et tout ça. Et à un moment donné, il me montre des trucs, il fabrique des drones, il manque de drones, il manque de moyens et tout. Donc lui-même, comme il a une entreprise de menuiserie, il est assez débrouillard et tout. Donc il fabrique des drones, il fabrique des leurres, il me montre des trucs sur son téléphone. Et à un moment donné, il me montre une vidéo, mais hyper violente. Hyper violente, je suis vraiment choqué. Et donc ça, par contre, j'ai décidé de ne pas le mettre. J'ai essayé d'expliquer ce que je croyais, ce à quoi je pense correspondait ce geste qu'il a eu de me montrer cette vidéo. Mais
C'est ça. Dans le livre, vous racontez le geste, mais vous ne parlez pas de la vidéo en question.
Exactement.
Ça va être la dernière question que je vais vous poser, Michel Hazanavicius. Est-ce que la culture permet d'anticiper l'avenir? Est-ce que la culture, c'est garder une trace? Est-ce que c'est ce qu'on peut faire de notre mémoire?
Alors là, je...
Quand vous faites ce cahier, vous le faites aussi pour qu'il reste quelque chose. Quand vous faites la plus précieuse des marchandises, vous le faites aussi pour qu'il reste. Est-ce que la culture a cette capacité à pouvoir, à un moment donné, saisir autrement? Vous parliez du chaman, vous avez parlé des forces culturelles qu'on retrouve dans ce livre, et c'est la raison pour laquelle je n'y suis pas revenue pendant cet entretien, mais est-ce que la culture, selon vous, a aussi un rôle à jouer dans cette guerre de ce point de vue-là?
Alors, des fois, on me demande, est-ce que vous croyez qu'un film peut changer la vie ou peut changer,
voilà. Non, c'est pas ça.
Non, je sais que vous me demandez pas ça, mais en règle générale, à cette question que vous ne m'avez pas posée, je réponds quelque chose que du coup je ne vais pas vous répondre. Mais mais j'ai tendance à dire un film ne change pas, mais maintenant imaginons en creux un monde sans film, c'est pas du tout le même monde. La culture, elle est protéiforme en fait. Elle a mille fonctions. Elle est vitale. Ce que dans un monde en paix, la culture, ça va du simple divertissement à des œuvres qui vont nous éclairer ou qui vont. Mais dans un monde en guerre, je crois que elle est un peu différente. C'est-à-dire que je crois qu'elle a un rôle vraiment de préserver de l'humanité, et en préservant de l'humanité. Je dis préserver l'humanité, pas de manière théorique, chez les hommes et les femmes. Non seulement elle permet à des soldats de pas devenir des bêtes et ne pas devenir des machines à tuer, ça c'est important. Et je crois qu'elle garde un fil qui leur donne une chance après-guerre. Je sais pas s'ils pourront revenir, personne ne pense revenir entre guillemets à la normale. Il y a pas, l'avant il est oublié pour eux. L'avant il est fini, c'est fini. Il y aura plus de retour à ça. En revanche, revenir à une vie sociale avec des règles sociales, avec des gens qui n'ont pas fait la guerre, ça va être très compliqué, parce que ce qui se passe là-bas, c'est justement les règles ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une absence de règles sociales. Ils sont réduits à quelque chose qui est extrêmement essentiel, qui est vivre ou mourir. La culture, je crois, elle a ce rôle-là. Alors, je ne parle pas de mon livre ou de mon film, je parle dans cette situation-là. Je pense que la culture, c'est ce que j'ai vu, elle permet à chacun d'espérer rester un être humain, quoi.
Et on pense quand même à Hannah Arendt, hein, à propos de votre livre, qui dit que même si c'est très dur, c'est quand même nécessaire et indispensable de faire face à l'histoire qu'on est en train de traverser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire et indispensable qu'on fasse face à l'histoire que nous sommes en train de traverser. Et je pense que votre livre y participe en permettant d'une autre façon d'écouter que les infos, mais qui est une autre façon de pouvoir voir l'histoire, peut-être d'une façon moins brutale, mais en fait, à cet endroit-là, je pense que cette façon culturelle de le dire, finalement, est une forme pour raconter une vérité, non ?
Mais en tous les cas, oui. En tous les cas, ce que j'ai essayé, c'est de raconter un événement qui nous préoccupe tous, qui nous engage tous, et j'ai essayé de le raconter à hauteur d'homme. C'est-à-dire ce qu'il est plus compliqué de faire avec les news, par exemple. Les news sont dans le macro et dans l'analyse et dans la géopolitique, etc. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous savez, on dit 10 000 morts, 20 000 morts, etc. Mais ça veut rien dire, ça. En vrai, c'est 10 000 fois une vie. Mais c'est des unités à chaque fois, c'est des unicités même. C'est-à-dire que un soldat ou une soldate, c'est quelqu'un qui était fait pour faire autre chose. C'était quelqu'un qui avait d'autres aspirations dans la vie. C'est quelqu'un qui a une famille. C'est quelqu'un qui avait des rêves et qui en a encore d'ailleurs. Mais c'est cette vie-là qui disparaît. C'est pas juste 10 000. C'est des gens qui ont des prénoms, des noms et des adresses. Et donc, ce que j'ai essayé, c'est d'être à cette hauteur-là.
Et c'est très réussi. On vous remercie de l'avoir fait.
Merci beaucoup.
D'être venu.
Merci beaucoup. Merci.